franceinter.fr.
Voici la revue de presse avec Philippe Lefébure. Bonjour Philippe.
Bonjour, je suis dégoûté de la politique. C'est une femme qui parle ainsi dans Le Parisien aujourd'hui en France. Héloïse Favennec est pourtant l'épouse d'un député de la Mayenne, Yannick Favennec. Et s'il est ainsi dégoûté, c'est que son mari va bientôt devoir se séparer d'elle, je veux dire... La licenciée, c'est la conséquence de l'article 4 de la loi dite de confiance dans la vie publique, nous explique le journal, loi adoptée à l'Assemblée nationale en début de ce week-end. L'épouse du député Favennec travaille à ses côtés comme attachée parlementaire depuis 9 ans à Paris et dans sa circonscription. « J'ai un vrai travail », explique Héloïse Favennec, « que je fais très bien », dit-elle, et très honnêtement. Cette loi interdit désormais à tout parlementaire d'employer un proche. C'est une mesure disproportionnée, dit encore la femme du député. Un UDI Macron compatible qui n'emmène pas large, écrit Le Parisien, parce qu'il a voté en faveur de cette loi. Une vingtaine de députés de la nouvelle Assemblée seraient aujourd'hui dans cette situation, l'obligation de licencier leurs conjoints collaborateurs. Nous sommes des victimes collatérales de l'affaire Fillon, enrage le couple Favennec. Le Penelope Gate, deux pages plus loin, le journal Le Parisien l'évoque à nouveau, cette fois-ci en revenant sur l'agression hier de la députée En Marche, Lauriane Rossi. Une de plus envers un politique, et plus précisément une femme politique. Cette agressivité n'est pas nouvelle, explique l'historien et prof à Sciences Po Jean Garrigue, interrogé par Le Quotidien. Le ras-le-bol des citoyens est très vif et il a été renforcé par le Penelope Gate. On y revient donc, à faire qui a contribué, selon Jean Garrigue, à délégitimer les politiques. La politique, c'est le choix de manchette pour le Figaro. Face aux difficultés, Macron veut reprendre la main, écrit Le Quotidien. Dans son éditorial, Paul-Henri Dulimbert anticipe la saison 2. Alors la saison 1, c'était l'incroyable accession au pouvoir, sans contestation aucune, écrit-il. Un succès. La saison 2 commencera dans moins d'un mois et comme il se doit dans les séries bien conçues, avec elle viendra le temps de l'adversité. Avec ce premier chantier, selon Figaro, la réduction du déficit public et de notre addiction à la dépense, il faudra agir de façon volontariste, mais avec discernement, qualité dont Emmanuel Macron n'a pas fait preuve à propos du budget de la défense, épisode que le Figaro visiblement n'a pas encore digéré. En page 3, Alain Barluet revient sur cette réunion qui a scellé le sort du général de Villiers. Eh bien, ce n'est pas celle qu'on croit. Il ne s'agit pas de l'audition parlementaire du chef d'état-major des armées qui démissionnera quelques jours plus tard. Son exaspération face aux coupes budgétaires imposées à l'armée ayant fuité, non. Tout se serait noué ce même jour, mais au matin, à l'Élysée, lors d'un conseil restreint de défense. La réduction budgétaire de 850 millions d'euros y est actée. La ministre des Armées, Florence Parly, dit son désaccord, soutenu par son prédécesseur au poste, Jean-Yves Le Drian. Le général Pierre de Villiers prend lui aussi la parole, ce qui n'aurait pas plu au secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, l'intransigeant de l'Élysée, écrit Le Figaro. Ce qui lui a déplu, écrit le journal, c'est l'idée qu'on puisse imaginer revenir sur un arbitrage du président de la République. On n'est plus sous Hollande.
On n'est plus sous Hollande, Philippe Lefébure. Le ton a changé aussi concernant un autre dossier.
C'est Libération qui titre en ce lundi matin sur l'impunité fiscale des géants du net. Google, Apple, Facebook et autres Amazon. Google vient d'échapper à un redressement fiscal de plus d'1 milliard d'euros. Procédure lancée il y a plusieurs mois. Elle est racontée dans le détail par le journal. Mais aujourd'hui, changement de ton. Bercy propose une transaction au moteur de recherche, champion de l'évasion fiscale. Pour le nouveau gouvernement, c'est du pragmatisme. Pour le journal, c'est l'échec des politiques fiscales européennes face aux GAFA, comme on appelle ces géants du net, qui est ainsi acté. L'État joue 1 milliard au poker menteur. Dans son éditorial, Johann Hufnagel estime que ces très grandes entreprises américaines doivent être imposées comme des entreprises européennes. Sinon, écrit-il, le jeu de la libre concurrence non faussée, mantra de l'Europe, est biaisé. Ces règles européennes de la concurrence sont encore évoquées, mais cette fois-ci dans les pages football du Parisien. Là, on parle du transfert du siècle à venir, celui de la star brésilienne Neymar, qui devrait débarquer cette semaine à Paris, au Paris Saint-Germain. L'article signé Bertrand Métayer file la métaphore avec le chassé-croisé des juilletistes et des haussiens, je ne sais pas trop pourquoi, mais il affirme que l'arrivée de la star, probable à 60% selon l'équipe, cette arrivée déclenchera une effervescence digne d'un grand départ en vacances sur le périphérique parisien. Quant aux règles de la concurrence libre et non faussée, je n'ai pas oublié, c'est le président de la Ligue espagnole de football qui les invoque. Le PSG pique en effet le joueur à Barcelone avec l'argent de son actionnaire. Le Qatar injecte des fonds qui violent les règles du fair play et des règles de la concurrence de l'Union européenne, affirment les Espagnols, qui préparent des recours. Quoi qu'il en soit, ce matin, c'est le nageur Camille Lacour, après son troisième titre mondial d'affilée sur 50 mètres d'eau, remporté hier à Budapest, qui fait la une. Des adieux en or, titre l'équipe, qui raconte ses yeux bleus piscine embués très légèrement au moment de la Marseillaise. Camille Lacour raconte encore le quotidien sportif qui a découvert, après sa course et en sortant son téléphone, 57 SMS, 74 messages Facebook, 99 sur WhatsApp et 20 sur Instagram, tous de félicitations évidemment pour celui qui prend sa retraite sportive de la plus belle des façons. Un final en apothéose, met à sa une l'Indépendant. Lacour porte les bleus sur son dos, titre Libération en page intérieure, qui raconte cette compétition préparée entre deux portes, à la 6-4-2, entre un petit tennis entre amis, deux rendez-vous professionnels, un Fort Boyard derrière les fagots et une conférence de motivation en entreprise. Camille Lacour, un authentique cafetier restaurateur, écrit Libé, l'ouverture de son établissement à Saint-Germain-des-Prés, ayant occupé ces derniers mois le plus clair de son temps. Les abdos, les abdominaux, ceux de Camille Lacour et ceux de tous les hommes, c'est l'obsession, semble-t-il, de Men's Fitness, un magazine pour les hommes, les vrais. Hugh Jackman est en une du numéro d'été, son plan en 4 semaines pour un torse digne de Wolverine, son rôle phare au cinéma. Le journal propose aussi des abdos visibles en 30 jours, résultat garanti. Alors ce qui m'a attiré en fait, c'est cette vignette en une spéciale apéro. Le plaisir sans les kilos, petit guide essentiel en cette période, Pierre. Alors les alcools et cocktails sont passés en revue. Et à noter ce vrai faux de la bière. Alors oui, elle désaltère. Non, la bière n'est pas bénéfique avant le sport. Mais surtout non, la bière ne fait pas grossir. De nombreuses études prouvent, écrit Men's Fitness, qu'il n'y a aucune corrélation entre la consommation modérée de bière et la prise de tour de taille. En fait, elle stimule les muscles gastro-intestinaux, ses protéines, ses vitamines B, améliore la flore intestinale.
Sans blague.
Une peinture bien vivante, on va terminer plutôt par ça. Magali Geoffrey dans L'Humanité ce matin revient sur la rétrospective David Hockney au Centre Pompidou. C'est à Paris jusqu'au 23 octobre pour ceux qui visitent ou qui restent dans la capitale. On en sort sur un petit nuage, écrit-elle. Il faut voir à leur sortie les visages détendus, épanouis des visiteurs, conquis, enthousiastes, comme s'ils étaient désormais détenteurs du secret de la création artistique qui, bien plus complexe qu'il n'y paraît, est un acte de partage. David Hockney est à la fois maître de l'espace et du portrait.
La revue de presse, c'était Philippe Lefébure.